Bonjour à chacun. Merci pour votre accueil. On se sent tout de suite comme à la maison. C'est une joie d'être avec vous. Comme David l'a dit, je m'appelle René Progin. Je travaille pour Mercy Chips depuis 7 ans bientôt. Je suis aussi membre du conseil pastoral de l'église de Chablecroix qui vous salue bien. Peut-être certains connaissent Gilles Geyser, Mathieu Maillefer, les pasteurs. Et c'est une joie d'être avec vous ici. On a fait un petit bout de route ce matin, mais on est vraiment heureux parce qu'on se retrouve comme à la maison. Certains d'entre vous connaissez peut-être Mercy Chips, d'autres pas du tout. C'est une organisation aujourd'hui internationale, basée sur des valeurs chrétiennes, qui a été fondée à Lausanne, ici en Suisse, en 1978. Mercy Chips utilise des navires hôpitaux pour amener des soins chirurgicaux pour offrir de la formation dans différents pays d'Afrique de l'Ouest et même un peu plus loin en Afrique. Chaque année, c'est 2000 opérations, 8000 traitements dentaires. Ça va bientôt plus que doubler. Et tout ça gratuitement pour ceux qui n'ont pas accès aux soins chirurgicaux en Afrique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi, en tant que chrétien, faire le bien ? Pour quelle raison est-ce qu'on met notre énergie, et pour certains, toute notre énergie, à aider notre prochain à aller sur des bateaux pour faire de la chirurgie en Afrique ? Alors, bien sûr, il y a le commandement « aime ton prochain comme toi-même », mais vous le savez comme moi, et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous en parle énormément. On est sauvé par la foi, pas par les œuvres. On est sauvé parce qu'on croit que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il est mort sur la croix pour effacer nos péchés, une bonne fois pour toutes, et que nos actions n'y changent rien à notre salut. Mais alors, pourquoi faire le bien ? Il y a un verset qui porte Mercy Chips depuis pas mal d'années. C'est un verset qu'on trouve dans le livre du prophète Michée. Je suis sûr que vous le lisez tous les soirs. Le chapitre 6, verset 8. Je vous lis le verset. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Même si vous ne connaissez pas grand-chose peut-être sur Michée, ni sur son livre, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu ce verset. C'est le genre de verset qu'on aime bien afficher sur Instagram, sur Facebook ou sur son frigo, selon son âge. Je vous propose qu'on voit un peu le contexte dans lequel ce verset a été écrit, parce qu'il est intéressant et il est pertinent, je crois, pour bien le comprendre. Michée, c'est un prophète, un homme que Dieu utilise pour parler à son peuple. Il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, environ vers 750 avant Jésus-Christ, dans le royaume de Juda, et c'est un contemporain des prophètes Osée et Ésaïe, qu'on connaît un peu mieux. Le royaume d'Israël a connu une longue période de paix depuis le roi David, 3 siècles auparavant, mais avec le temps, le peuple et ses rois se sont détournés de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu parle à Michée et lui fait dire ces choses qu'on peut lire dans le livre de Michée. On y trouve des accusations, des avertissements de Dieu à son peuple. Dieu dit au peuple qu'il a rejeté et violé la loi qui avait été donnée à Moïse, qui avait été donnée à ses ancêtres. Dieu reproche que les rois règnent sans justice, que les rois favorisent les riches au détriment des pauvres, que la corruption et le mensonge règnent en maître. On peut lire dans Michée 6, les versets 11 et 12. « Est-on pur si on commence avec des balances, si on commerce, pardon, avec des balances et des mesures fausses et avec des faux poids dans le sac ? Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. » C'est rude comme accusation. Et au chapitre 6, Michée illustre cet échange entre Dieu et le peuple, par un procès. Et Dieu demande au peuple pourquoi il s'est détourné de lui. Au verset 3, « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison d'esclavage et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. » Alors à ce moment-là, Christ n'est pas encore venu, le peuple vit sous la loi donnée à Moïse. Et quand on étudie, quand on se plonge dans le livre de Michée, où il y a plein de richesses, on voit que c'est cette loi, ce sont ces 10 commandements et tous les autres commandements qui ont été donnés que le peuple a rejetés. Or, sous la loi, ce qui efface le péché, ce qui nous rend juste à nouveau devant Dieu, ce sont des sacrifices. Alors face aux accusations de Dieu, la réponse du peuple, en tout cas celle que Michée propose, elle semble conforme à la loi. Chapitre 6, verset 6. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ?» Je l'ai dit, la réponse, elle est juste par rapport à la loi. Est-ce qu'on va faire des sacrifices? Est-ce que c'est ça qui peut pardonner nos fautes? Et pourtant, en même temps, ils savent déjà que le salut ne vient pas que de là. Ils savent que ce que Dieu recherche, avant tout, c'est un cœur repentant qui change et qui vit selon le cœur de Dieu. Quelques siècles avant, le roi David écrivait déjà dans le psaume 51 « Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. » Et c'est exactement la réponse que Dieu donne dans ce procès que Michée met en scène entre Dieu et le peuple. Au verset 8, qui nous intéresse, Dieu rappelle trois points sur ce qu'on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Trois points qui sont pertinents pour nous à Mercy Chips, mais trois points qui, je crois, sont pertinents pour chacun d'entre nous en tant que chrétiens et qui nous permettront de comprendre pourquoi on est appelé à faire le bien. Premièrement, c'est que tu pratiques la justice. La justice, par nos actes, pratiquer la justice. Et la justice de Dieu, et non pas celle des hommes, celle qui est fausse, celle qui est corrompue. Mais la justice dans la Bible, c'est tout un programme. Donc si vous me donnez jusqu'à 6 heures ce soir, on va commencer. En très très résumé, la justice, selon Dieu, c'est la conformité à sa volonté, à son plan parfait pour chacun de nous et pour notre société. Et on l'a vu au temps du prophète Michée, c'est ça que les rois et le peuple ont laissé de côté. Dieu reproche l'absence de justice en décrivant que certains s'enrichissent au profit de ceux qui deviennent de plus en plus pauvres. Il leur reproche le mensonge, la tromperie, la triche, la corruption. Alors ça, c'est en 700 avant Jésus-Christ, mais je crois que s'il était là aujourd'hui, il pourrait dire assez quelque chose de très semblable. Et je ne sais pas vous, mais l'injustice, je crois qu'elle provoque en nous une colère, elle provoque en nous une frustration. Et c'est face à ce sentiment d'injustice que Mercy Chips a été créé. En effet, aujourd'hui, alors que nous, ici, on a des hôpitaux, on a des chirurgiens très, très expérimentés de pointe, 2 personnes sur 3 dans le monde, 5 milliards d'êtres humains aujourd'hui n'ont pas accès du tout aux soins chirurgicaux. C'est complètement injuste. Chaque année, il manque environ 40 millions d'opérations. Alors qu'on sait que plus de 8 enfants sur 10 ont besoin de soins chirurgicaux dans leur jeune âge, dans leurs premières années. Et pourtant, 2 personnes sur 3, 2 hommes, 2 femmes, 2 enfants sur 3 n'ont pas un accès à des soins chirurgicaux aujourd'hui. Alors ces chiffres-là, on les a grâce à une étude de 2010 qui a été menée sous la houlette du magazine médical The Lancet. Mais la réalité qui est derrière, on la connaît depuis bien longtemps. Et c'est cette réalité qui a poussé un couple américain, Don et Dion Stevens, à créer Mercy Ships. Ils avaient ce rêve de prendre un navire et d'aller offrir des soins en Afrique. Et si ça vous intéresse, j'ai quelques livres en bas avec toute l'histoire. C'est vraiment une lecture passionnante, pleine de belles choses, pleine de miracles, pleine d'aventures avec Dieu. Et ce navire va être acheté en 1978. Donc Don et Dion Stevens vivent ici à Lausanne, font partie de Jeunesse en Mission. Et avec des amis, avec aussi un emprunt à une banque, ils vont pouvoir acheter un navire à Venise et le renommer Anastasis. Je pense que ce nom résonne pour certains d'entre vous. Ce navire va sillonner les côtes d'abord d'Europe et des Caraïbes, des États-Unis, mais surtout dès les années 90, va se concentrer sur le continent africain pour apporter des soins chirurgicaux. Face à l'injustice en matière notamment d'accès aux soins chirurgicaux, Dion Stevens décide de pratiquer la justice, de se mettre en mouvement. Le deuxième point dans le verset de Michée, c'est que tu aimes la miséricorde. Ce que notre Bible traduit par miséricorde ou parfois bonté, et en anglais ça tombe bien, mercy, c'est le mot hébreu chesed, pardonnez ma prononciation. Son sens est très difficile à traduire complètement en français. Ce mot est souvent utilisé pour définir, pour décrire la fidélité de Dieu envers nous, envers son peuple, sa bienveillance, son amour inébranlable. Ce mot intègre la notion d'accepter la responsabilité qu'on a dans une relation avec autrui, de reconnaître sa responsabilité d'agir en conséquence. Chesed exprime souvent une relation inégale où l'un est dans le besoin et l'autre est en capacité de donner. L'un a besoin de miséricorde, l'autre est en mesure de l'offrir. Et vous vous en doutez bien, c'est le mot qui est souvent utilisé pour décrire la relation entre Dieu et nous, sa bienveillance et son amour envers nous. C'est ce mot, sa bonté. Et toi, en tant que chrétien, tu as cette relation avec Dieu. Tu es dépendant de lui parce que lui peut donner ce que toi, tu n'as pas. Tu as besoin de miséricorde et Dieu est capable de la donner. De manière infinie, de manière éternelle. Alors, en tant que chrétien, on a expérimenté cette miséricorde. Et de ce fait, je crois, on est appelé à l'exprimer et à la pratiquer autour de nous. C'est ça la clé. Aimer cette miséricorde. Reconnaître que nous, on a tout reçu de Dieu et qu'on est appelé à donner ce qu'on peut à notre prochain. Alors pourquoi faire le bien? Pourquoi servir notre prochain? Parce que lorsqu'on réalise la grandeur et la miséricorde de Dieu envers nous, la grandeur de son pardon accordé par Christ à la croix, eh bien là, ça nous pousse, comme dit le verset, à aimer la miséricorde et à la vivre. Et je crois que c'est ça qui motive beaucoup de ceux qui s'engagent avec Mercy Ships, mais aussi avec d'autres organisations pour aider leurs prochains. Concrètement, chez Mercy Ships, on le fait sur trois axes. Le premier, c'est d'apporter des soins chirurgicaux, offrir une aide directe à ceux qui en ont besoin. Chaque année, c'est des milliers de patients qui viennent parce qu'ils ont une tumeur, ils ont des jambes arquées ou ils ont une autre pathologie qui demande une opération et avec laquelle ils pourraient retrouver une vie non seulement normale, mais peut-être une vie qui leur permette de voir l'avenir avec sérénité. Le deuxième axe, c'est que nous offrons des programmes de mentorat, de formation pour les professionnels de la santé locaux, afin de les équiper face à la réalité de leur terrain. Et le troisième axe, c'est de soutenir et collaborer avec les acteurs de la santé, tant au niveau politique qu'au niveau des hôpitaux, pour les soutenir dans l'amélioration du système de santé global, pour que, comme on le dit souvent, un jour, on n'ait plus besoin de nous. Et pour ça, on bénéficie aujourd'hui, vous les avez peut-être déjà vu en image, de deux navires aujourd'hui, et c'est une joie. L'Africa Mercy, qui est en service depuis 2007, et qui comprend 5 salles d'opération, qui peut accueillir 400-450 bénévoles, et le Global Mercy, qui est encore plus grand, et qui a été mis en service cette année, qui est arrivé en juin cette année pour la toute première fois à Dakar, au Sénégal, et que nous espérons pouvoir utiliser pendant au moins 50 ans. C'est un bel outil de travail, il comprend 6 salles d'opération, mais surtout il comprend des salles de formation, des salles de simulation pour former les médecins, les chirurgiens locaux. Ce navire pourra héberger jusqu'à 650 bénévoles. Donc si vous avez envie de faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure. Mais pour revenir à Michée, le troisième point, c'est « et que tu marches humblement avec ton Dieu ». Et cette humilité, dans la Bible, elle a deux axes. Elle a l'axe horizontal avec notre prochain et l'axe vertical face à Dieu. Face à Dieu parce qu'on lui doit tout, on l'a vu. Parce qu'il nous a tout donné. Parce que le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Comme le dit le psaume 51. Mais également, on est appelé à marcher humblement avec notre prochain. Parce que si on cherche à se mettre au-dessus de l'autre, eh bien nous ne pratiquons pas la justice de Dieu. Même en position de leader, Dieu nous appelle à rester serviteurs. Et je crois sincèrement que pendant trop longtemps, malgré de bonnes intentions peut-être, l'Église a envoyé des missionnaires et des travailleurs humanitaires dans les pays en développement sans cette humilité. Et même chez Mercy Ships, je dois être honnête, on continue d'apprendre, on continue d'apprendre à marcher humblement avec tous ceux avec qui nous travaillons et que nous servons en Afrique. Quand j'ai visité l'Africa Mercy au Cameroun, j'ai été profondément touché de voir comment des chirurgiens s'intéressaient et aimaient les patients avec humilité. J'étais là avec des personnes de Suisse qui avaient de la fortune, qui pouvaient avoir une importance, mais les chirurgiens étaient là pour les patients. S'intéresser non seulement à leur situation médicale, mais à leur vie. Comment vas-tu? Comment va ton petit-fils qui a eu un accident de vélo? Pour un chirurgien extrêmement, extrêmement expérimenté, quelle humilité. Ça m'a profondément touché. Alors cette humilité, comme je l'ai dit, on la vit, on la pratique, notamment dans tout le programme de formation. On offre des formations pour les professionnels locaux, là où il y en a, des fois il n'y en a pas beaucoup justement. Mais pour ceux qui sont là, on travaille avec eux. Mais ce n'est pas une formation où nous on vient et on leur enseigne tout. C'est une formation où on cherche à apprendre d'eux, on cherche à apprendre quelles sont leurs réalités, leurs défis, qu'est-ce qu'ils vivent et quelles sont leurs solutions quand ils en ont. Et dans différents domaines, on a pu apprendre des choses dans certains pays et venir ensuite dans un autre pays et transmettre ce savoir, mettre même en relation les professionnels les uns avec les autres. Et je crois que ça fait partie de cette humilité qu'on doit chercher à apprendre à avoir, de reconnaître qu'on n'a pas toutes les solutions, mais qu'ensemble, on peut travailler pour en trouver.